Beaucoup d'Orléanais connaissent Cordon, connaissent Combloux. Il y a une foule de gens qui ont un chalet dans la région. Donc certains ne vont rien découvrir du tout. Alors en fait, voilà le chemin que nous aurions pu accomplir en partant de Cordon, de cette magnifique église que voici, que voilà. Nous serions allés jusqu'à l'église Notre-Dame de la Gorge, à côté des Contamines Montjoie. En fait, sur la photographie, vous avez l'église et Notre-Dame de la Gorge se trouve au pied des monts qui sont là-bas au fond, les monts enneigés, c'est le dôme de Miage. Pour ceux qui connaissent, les aiguilles de Bionasset qu'on commence à voir derrière le clocher à gauche. Et pour ceux qui seraient tentés de continuer le chemin un peu plus haut, vous avez le Mont Blanc qui est juste à gauche de la photographie. Mais vu votre tenue de ce soir, c'est totalement exclu, n'est-ce pas? Si j'élargissais un petit peu le plan, la carte, pour situer, pour les gens qui ne connaissent pas bien la région, pour situer le Haut-Faucigny, il me manque peut-être encore quelque chose. Merci. Ah, rien vous amuse. Voilà. Alors, le Haut-Faucigny, eh bien, c'est par ici, vous voyez. On a ici Saint-Gervais, les Contamines Montjoie. Ceci, bah, c'est la vallée de l'Arve. Voilà. On a Chamonix, ici. Au nord, le Chablais, limité forcément par le lac Léman. Et Genève, qui a une très grande importance dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. Au sud de l'Arve, eh bien, on a le Beaufortin ici, les bornes ici, entre les deux, à peu près nord-sud, la chaîne des Aravis. Pour ceux qui connaissent, je n'invente rien. Quant au Haut-Faucigny, vous qui êtes italianisant, qui fréquentez l'Italie abondamment, vous qui allez en Italie par le tunnel du Mont-Blanc, ben vous passez forcément dans le Haut-Faucigny. C'est la seule voie d'accès par l'autoroute. Vous avez Annemasse ici, la Cluse, Chamonix et le tunnel du Mont-Blanc qui est représenté ici. Si j'élargissais encore un petit peu plus le plan, nous voici sur une carte beaucoup plus ancienne, puisque c'est une carte représentant le royaume de Piémont-Sardaigne. Donc, une carte d'après 1720, puisque c'est en 1720, j'en reparlerai très rapidement plus tard, que le royaume de Piémont-Sardaigne a véritablement été créé. Alors, on a l'ancienne capitale, Chambéry, qui ne le fut plus à partir de 1562, la nouvelle capitale, Turin, à l'est, ici, le lac Majeur, dont la présidente, madame, j'ai perdu son nom, Geneviève, dont Geneviève nous a abondamment et très bien parlé. Voilà. Ici, une vallée, petite rivière, la Sésia, dont je serai obligatoirement amené à parler, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Voilà, la situation est posée. Revenons à notre sentier du baroque. Le problème, c'est que je ne vois plus très clair maintenant par ici. Mais enfin, on va essayer. Je vais essayer de...
Tu veux que j'allume ?
Ben non, si on allume, je vais être plus... Vous n'allez plus voir l'écran. Alors, quand on parle baroque, puisque nous sommes sur le... Nous faisons une promenade baroque. Nous partons sur le sentier du baroque. Quand on parle baroque, on a une petite idée un peu négative, hein, voire un peu méprisante pour certains, pour le moins étonnée. Et parfois même, on va jusqu'au malaise. J'ai souvenir d'avoir visité quelques églises au Mexique. C'est très très vieux, il y a plus de 40 ans. Et vraiment, j'en suis sorti dans un état, je ne peux le qualifier. Quand on voit la misère à l'extérieur, la surabondance des ors à l'intérieur, on se dit qu'il y a quand même un contraste un peu trop violent. Peut-être que si les richesses avaient été un peu mieux réparties, Enfin, bon, c'est un avis personnel que vous ne partagez pas forcément. Alors, en fait, le mot baroque vient du portugais, barroco, qui signifie, qui désigne, c'est un terme de joaillerie, et qui désigne une perle imparfaite, irrégulière. D'où l'idée un peu péjorative qui s'ajoute à ce terme. Alors, ce mot baroque va être attribué au style d'architecture, de peinture et de sculpture qui s'épanouit dans une luxuriante floraison, d'abord en Italie, vous le savez bien, puis dans tout le reste de l'Europe, et en particulier dans tout l'arc alpin, ce qui est beaucoup plus surprenant, parce qu'on va trouver ça dans des villes relativement importantes, bien sûr, mais dans des localités de toutes petites, voire dans des hameaux, ou dans des lieux complètement isolés. Combloux, qu'on connaît bien, en fait, n'a que 2000 habitants, à peu près. Cordon, en la moitié moins. Les Contamines-Montjoie, à peu près pareil. Ce sont de toutes petites localités où on va trouver ces merveilles. Alors, trois petits développements d'abord. Plaçons-nous au niveau d'abord historique, puis au niveau économique, et enfin au niveau religieux, ce qui nous amènera tout naturellement aux églises qui nous intéressent et aux chapelles qui nous intéressent. Alors, je vous l'ai dit, en 1562, la capitale du duché de Savoie est passée de Chambéry à Turin. C'est sous le duc Emmanuel Philibert. Emmanuel Philibert, on ne connaît pas forcément très bien, mais il nous a bel et bien mis la pâtée à la bataille de Saint-Quentin, 1557, car il était en fait à la tête des armées de Charles Quint. Et la ville de Saint-Quentin, qui était tenue par quelqu'un qu'on connaît bien, puisque c'était Coligny, ville assiégée, Anne de Montmorency partait à la rescousse avec une armée de secours, mais Emmanuel Philibert et les troupes de Charles Quint ont défait cette armée, et ça a été une puissante défaite pour les troupes françaises. À partir du XVIIe siècle, du milieu à peu près de la première moitié du XVIIe siècle, la Savoie va jouir d'une soixantaine d'années, presque jusqu'à la fin du siècle, de vie paisible. Mais à l'ombre toutefois de la toute-puissante France, de Louis XIII d'abord, puis évidemment de Louis XIV. Le pays reste cependant pauvre et l'émigration importante. Ça va de pair. Les lieux d'accueil privilégiés sont Genève, au plus près, la Suisse, fait la différence entre la Genève et puis les cantons de Vaud et autres vallées qui sont proches du lac Léman. La Franche-Comté, la Lorraine, la Bourgogne, voire la Flandre un peu plus loin. Mais à la fin de ce XVIIe siècle, en 1686, une grande partie de l'Europe s'unit contre la France, contre Louis XIV, par la Ligue d'Augsbourg. Victor Amédée II, le nouveau duc de Savoie, on profite pour tenter de se libérer de la pesante tutelle française. Mal lui en prend. La Savoie est occupée à deux reprises, la première fois de 1690 à 1696, la seconde de 1703 à 1713, jusqu'au traité d'Utrecht, que la Savoie retrouve, et c'est à ce moment-là, pardon, que la Savoie retrouve véritablement son indépendance. Victor Emmanuel reçoit la couronne de Sicile, qu'il échange en 1720 contre la Sardaigne. C'est ainsi que naît le royaume de Piémont-Sardaigne, dont vous avez une partie devant vous. On constate donc que la vie des Hauts-Savoyards n'est pas un long fleuve tranquille. À ces occupations répétées s'ajoutent, comme partout dans le monde européen de l'époque, des épidémies de peste, entre autres, et les disettes, qui accable cette population durant le XVIe siècle, le XVIIe. L'économie générale de la région en est considérablement affaibli. Alors, au niveau économique, effectivement, les communautés montagnardes, si on les compare à ce qui se trouve dans l'avant-pays, sont toutefois mieux loties. Pourquoi ? Eh bien, l'économie de chaque village de montagne est liée à l'exploitation de très vastes alpages, propriétés communautaires, depuis le XIIIe siècle dans bien des cas. Cette gestion collective des alpages impose une solidarité obligatoire au village. Et sans l'utilisation de ce bien commun, il n'est guère envisageable de pouvoir vivre décemment tant les propriétés individuelles sont petites et morcelées. Mais pour avoir le droit de faire pâturer son bétail sur les alpages communaux, il faut accepter les règles séculaires qui codifient la vie économique et les modes de pensée du village. À partir du XVIIe siècle, l'exploitation de ces alpages est à l'origine d'un enrichissement global des communautés montagnardes. Les fromagers suisses venus de la Gruyère peu éloignée ont amené de nouvelles techniques de transformation du lait qui se sont propagées lentement dans nos montagnes. On a appris au contact de ces fromagers à mieux soigner les troupeaux et à produire des fromages de meilleure qualité. Dès lors, le paysan nourrit mieux sa famille. Et la vente des fromages constitue une source de revenus non négligeable, tant pour les particuliers que pour les communautés villageoises. C'est en grande partie grâce à cet argent que chaque collectivité pourra bâtir ou rebâtir son église. Les paroisses de plaine, où une économie céréalière prédomine, ne bénéficient pas de la même manne. Leur situation économique reste des plus précaires, et elles ne seront pas touchées par l'élan de reconstruction qui enflamme les vallées savoyardes. Ceux qui ne pouvaient se satisfaire du cadre rigide de la société rurale montagnarde, ou ceux qui étaient animés d'un certain souci de réussite sociale, devaient obligatoirement quitter leur village pour tenter de réussir. Cet état d'esprit est en partie à l'origine d'un vaste courant d'émigration dont j'ai parlé il y a peu de temps. Il en est qui réussissent d'une manière magistrale durant cet exode. Après quelque temps, il n'est pas rare de les retrouver marchands bourgeois en Autriche ou dans le Palatinat. On verra même quelques Savoyards obtenir des charges importantes à la cour de Vienne. Ils n'en oublient pas pour autant la paroisse qui les a vus naître. Ils envoient parfois des sommes considérables pour financer justement la construction et la décoration de la multitude d'églises et de chapelles élevées entre le milieu du XVIIe et la fin du XVIIIe siècle, qu'une église militante appelait de ses vœux. Le talent d'artiste extérieur et le dynamisme des communautés allaient faire le reste. En effet, dans quel contexte religieux évoluons-nous ? Si l'on revient un petit peu en arrière, on sait que tout au long du XVIe siècle, l'Église a vécu une des périodes les plus troublées de son histoire. Depuis longtemps, une crise institutionnelle et morale était prévisible et la situation avait continué à se dégrader lentement jusqu'au début du XVIe siècle, moment où se produit une formidable fracture au sein de l'Église. Certains de ses membres, animés par le souci de retrouver la pureté de l'Église des premiers siècles, jette les bases d'un mouvement que l'on appellera la Réforme et qui donnera naissance au protestantisme. Luther en Allemagne, Calvin dans les pays francophones en sont les fers de lance et bien d'autres encore. Les partisans de cette nouvelle doctrine défendent une hiérarchie de l'Église simplifiée, un nombre réduit de sacrements, un culte dépouillé de tout son apparat. Plus de dévotion à la Vierge ni au Saint. Le temple est privé de tout décor, de toute représentation de l'image divine. C'est la relation personnelle et directe avec Dieu par la prière qui compte avant tout, tandis que la parole du Créateur s'exprime dans la Bible. En 1545, l'Église catholique, menacée par la montée du protestantisme, décide de réagir. Vous savez l'histoire, un concile est organisé à Trente, dans le nord de l'Italie. Là, les évêques s'emploient à répondre point par point aux critiques formulées par les protestants sur le fonctionnement institutionnel de l'Église et sur le dogme. Les travaux, comme chacun sait, sont longs et difficiles, ils ne s'achèvent qu'en 1563. Dès lors, les dignitaires de l'Église, comme Charles Borromée ou François de Sales, mettront toute leur flamme pour faire appliquer dans les diocèses les décisions prises durant ce concile. Alors pourquoi ai-je cité Charles Borromée ou François de Sales? Eh bien parce que ce sont deux purs produits de la Savoie de l'époque. L'un est né à l'est, dans l'Italie d'aujourd'hui, à Arona, que Geneviève nous avait situé, au bord du lac Majeur. C'est par ici. Voilà. L'autre, François de Sales, est né à Torrens. Voilà, la ville de Torrens, qui se trouve à peu près à égale distance entre Bonneville et Annecy, au château de Sales, d'où son nom. À Torrens, appelé Torrens-les-Glières maintenant. Ça n'a rien à voir avec notre propos de ce soir, mais les Glières, c'est le nom de ce fameux plateau où des faits de résistance mémorables ont eu lieu en 1944. Alors, ces deux personnages ont eu une importance considérable dans cette contre-réforme. Charles Borromée, je reviens. Voilà, le voilà. Alors, ce Charles Borromée, c'est un tableau d'un certain Ambrogio Figino, petit tableau qui fait une quarantaine de centimètres de côté. Je ne sais, c'est très très sombre. C'est beaucoup mieux sur mon écran. Voilà, j'aurais pu vous représenter. Le A n'a rien à voir avec. Il est sur l'écran. J'aurais pu vous montrer un portrait de Charles Borromée qui se trouve dans l'église de Sancerre. Si vous avez la curiosité d'aller par là, plutôt que d'aller dans une cave, vous pouvez passer dans l'église et vous y verrez Charles Borromée. Charles Borromée est le neveu de Pie V, le pape Pie V, et à la mort de celui-ci, il devient archevêque du diocèse de Milan. Et il écrira un livre qui est très important pour ce qui nous intéresse ce soir, intitulé « De la construction et l'ameublement des églises ». Ces préceptes vont être particulièrement suivis dans les aménagements qui vont nous intéresser bientôt. Quant à François de Sales, lui, eh bien, il a une lourde tâche, c'est de ramener dans le giron de l'église catholique tous les habitants du Chablais, voisins de la Genève protestante, ces gens du Chablais qui s'étaient égarés dans le protestantisme. Et apparemment, il va y réussir. Il sera nommé évêque de Genève en 1603, en résidence toutefois à Annecy, loin quand même des Parpaillots. Il créera, avec Jeanne de Chantal, l'ordre de la Visitation, comme chacun sait. Jeanne de Chantal, qui, comme chacun sait également, est la grand-mère de Madame de Sévigné. Alors la Savoie occupe donc une position stratégique, on le voit, à proximité de Genève, dans la formidable lutte d'influence qui va se jouer entre catholiques et protestants. Genève, ville prestigieuse aux portes du duché de Savoie, est une place forte que l'on qualifie de Rome protestante. Sous son emprise, la province voisine du Chablais, je viens de le dire, a adhéré aux idées de la Réforme. Et la terre savoyarde, qui jusque-là avait été fidèle à la religion catholique romaine, constitue un véritable rempart face à la poussée protestante. C'est donc là le lieu où il faut impérativement agir. Donc les évêques du XVIIe et puis du XVIIIe mesurent bien cet enjeu et se dépensent sans compter pour que les idées de la contre-réforme fleurissent en Savoie. Cette église de la Reconquête a besoin d'affirmer sa présence et dans le moindre village on bâtit ou on rebâtit un sanctuaire dans lequel un art nouveau chaleureux, coloré, doit soutenir les idées d'une église romaine en pleine mutation. L'image, que ce soit dans la statuaire ou la peinture, la couleur, le rythme, apparaissent comme des piliers de ce catéchisme vivant. Devant enflammer une population, souvent peu lettrée, qui depuis plusieurs générations n'a plus de guide spirituel capable de nourrir sa foi ou d'expliciter le message divin. Le but de la contre-réforme, qui s'exprime par l'art baroque, est donc double. Réanimer la foi chancelante des populations très éprouvées par des conditions de vie difficiles et établir, une fois encore, un rempart, capable de contenir les idées de la réforme en magnifiant une foi joyeuse et triomphante en complète opposition avec les thèses de Luther et Calvin. Lorsque les communautés religieuses et les communautés villageoises décident de bâtir une nouvelle église, il leur faut bien entendu, dans ces villages perdus, se tourner vers l'extérieur pour faire appel à des architectes, des sculpteurs et des peintres capables de mener à bien une tâche qui n'a rien d'ordinaire. Dans bien des cas, je reviens un peu en arrière parce que j'ai oublié de vous montrer François de Sales. Alors là, j'ignore complètement qui a peint ce tableau et où il se trouve. Je vous prie de m'en excuser. Je reviens à mon propos. Dans bien des cas, donc, ce sont des maîtres maçons piémontais qui sont retenus. Et étrangement, ils sont presque tous originaires de la Valsesia. Je vous ai montré sur la carte tout à l'heure. En voici une autre. La Valsesia, la carte n'est pas très nette, mais enfin, le bassin de la Valsesia est représenté ici. Et le lac majeur avec Arona, ici, là où est né Charles Borromée. Turin est ici, au sud-ouest, de la carte. Alors très vite, le savoir-faire de ces artisans est connu et reconnu dans les vallées, qui seront marquées par le baroque. On s'attache souvent les services d'un architecte dont on a déjà apprécié une réalisation dans une paroisse voisine, et il se crée ainsi de véritables itinéraires des bâtisseurs de la Savoie baroque. Alors, on peut imaginer qu'ils vont de ville en village, de village en hameau, à l'image de nos petits ramoneurs savoyards, eux avec leur boîte à outils pour venir accomplir ces tâches. Un exemple, un certain Jean de la Vougnaz. Son nom n'a pas forcément une consonance italienne, mais il est quand même originaire de la Valsesia. En 1696, on lui a confié l'édification de la nouvelle église de Saint-Gervais. Il est choisi ensuite pour rebâtir l'église de Notre-Dame de la Gorge, c'est le terme du sentier que je vous ai montré sur le premier plan tout à l'heure. Entre-temps, il aura reconstruit le clocher de Saint-Nicolas de Véros, qui est également sur le sentier que nous aurions pu parcourir à pied. Et nombreux, ce sont ces maîtres maçons valsésiens mettant leur savoir-faire au service d'une communauté montagnarde désireuse de bâtir un sanctuaire en accord avec les préceptes de la contre-réforme, édicté entre autres par les écrits de Charles Borromée. Et en pénétrant dans la plupart des églises au Savoyard, on remarque les éléments caractéristiques de l'art valsésien. On le verra tout à l'heure. Une nef allongée, parée d'une coupole comme à cordon, vous l'avez vu sur la première image. Des collatéraux qui souvent sont de la même hauteur que la nef. Des fenêtres qui percent les parties hautes de l'édifice. Et pour cause, il faut voir toutes les décorations intérieures, sinon ça ne présenterait plus d'intérêt. Les chaires, les sculptures, les autels collatéraux, surtout les retables, sont les éléments majeurs de la décoration. Alors, où ces artistes, ces artisans piémontais sont-ils allés chercher leur inspiration? Sont-ils allés jusqu'à Rome, berceau du baroque? Sont-ils allés plus probablement à Turin, puisque Turin, devenue capitale, a vu s'installer la noblesse de ce royaume de Piémont-Sardaigne, et bon nombre de puissants ont dépensé des mille et des cents, comme on dit, sans compter, pour bâtir palais et églises à la mesure de leur ambition. Cependant, il n'est pas pensable de transposer simplement au pied du Mont Blanc les fastes de Rome ou de Turin. Les artisans et les artistes de la Valsesia sont plus modestes, sont des montagnards qui travaillent pour des montagnards. Et ils restituent avec leur sensibilité la technique, l'architecture et la décoration dont ils se sont nourris en tenant compte de la volonté de leurs commanditaires. Car les véritables maîtres d'œuvre, ce sont les chefs de famille du village et le curé de la paroisse. Pour quelque travail que ce soit, un contrat est signé. C'est le prix fait. Ce document extrêmement détaillé engage le maître maçon ou l'artiste d'une part et les communiés d'autre part. C'est l'affaire de toute la communauté qui doit s'impliquer. Chacun doit donner de son temps pour l'abattage des bois, de charpente, le transport des matériaux et bien d'autres tâches. C'est un travail d'équipe. Quelques documents attestent des origines des maîtres maçons ou artistes. Ainsi, un certain Domenico Gualino de la Valsesia conduit les travaux au Contamine-Montjoie. Jean de Lavougnaz, encore lui, qui a fait de même à Saint-Gervais, pour un prix fait de 74 000 florins. J'ignore ce que cela pourrait faire maintenant. Il intervient également lors de la reconstruction de Notre-Dame de la Gorge. Les travaux de Saint-Nicolas de Combloux et de Saint-Nicolas de Véros sont aussi menés par des hommes de l'art valsésiens. À l'image des colporteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont de village en village proposer leur savoir-faire, des tâches les plus humbles aux réalisations les plus grandioses, des églises paroissiales aux chapelles rurales. Ces églises sont en général construites ou reconstruites en des lieux isolés. Les communes en Haut-Faucigny sont de petite taille et la place ne manque pas. Une butte est même privilégiée. C'est le cas à Combloux, par exemple. Voici l'église de Combloux, qui est remarquablement située, vous voyez, sous le Mont Blanc. Voilà, les aiguilles de Bionassé ici, le Mont Blanc là. Alors ce choix est délibéré, car l'église doit être un point de repère dans le paysage. Et son approche prépare les fidèles, déjà, à l'élévation spirituelle qu'ils viennent chercher en ce lieu. Outre l'isolement, il faut aussi que l'édifice soit suffisamment éclairé pour qu'on en voie parfaitement la décoration, suffisamment grand pour accueillir toute la communauté paroissiale, suffisamment haut pour se rapprocher de Dieu. On suit ainsi les grands principes, je me répète encore, édictés par Charles Borromée dans son ouvrage que j'ai déjà cité, de la construction et de l'ameublement des églises. L'aspect extérieur est toutefois sévère, rappelant l'architecture des lieux, des grosses fermes. On ne parle pas encore de chalets, il n'y a dans ces lieux que de fermes. Le chalet est une construction moderne pour les touristes que nous sommes, les skieurs. Mais en découvrant la façade, on entre de plein pied dans le baroque. Alors, arrêtons-nous un petit moment devant l'église des Contamine-Montjoie, qui est le type même de ces églises baroques du Haut-Faucigny. Alors, sous ce large auvent, c'est dommage parce que les images sont très très sombres, on ne peut admirer toute la décoration. Sous tout ce auvent, on devine ici la partie supérieure. J'ai ça, c'est magnifique devant moi, je suis désolé, mais tout est bien sombre là. Toute la partie sous le haut vent est décorée de peinture. Alors je ne sais pas si on peut éclaircir. Il faut peut-être mieux pas y toucher parce que ça risque de ne plus marcher du tout. Hein? Voilà. Alors une corniche de stuc qui rompt un peu, qui partage en deux parties. Cet ensemble de fenêtres, ce sont des fenêtres, hein, ce sont trois fenêtres accolées, et qui portent un nom. On les appelle des Serliennes, du nom d'un architecte italien, Serlio, qui est venu en France à la Renaissance et qui a œuvré à Fontainebleau. Voilà. Alors, une porte avec un fronton interrompu, vous voyez. De part et d'autre, des décorations, alors de grands pilastres avec chapiteaux, de même autour de la porte. Un saint de chaque côté dans les corniches, voilà. D'autres décorations encore. C'est le type même des églises, il y en a plusieurs comme ça, dans la région. Alors, on ne voit pas bien, mais c'est Saint-Pierre et Saint-Paul de chaque côté de la porte de cette église des Contamines. Alors, si on va à Saint-Nicolas de Féros, qui se trouve sur notre itinéraire, la porte est pratiquement identique, vous voyez, avec un pilastre de chaque côté, un fronton interrompu. Voilà. C'est le même type d'entrée dans l'église. On peut également aller à Notre-Dame de la Gorge. Là, c'est vraiment très sombre. Mais on voit quand même la Serlière, la même porte avec le fronton interrompu, les mêmes niches qui là sont vides, et des décorations, toujours sous le auvent, mais sans oublier le clocher caractéristique, clocher à bulbe, que l'on voit dans pratiquement toutes les églises, au-dessus de toutes les églises de la région. Les chapelles rurales, là on parle d'églises, de paroisses, les chapelles rurales sont évidemment plus modestes, mais indispensables, car l'habitat montagnard est par essence très dispersé, au gré d'une vallée, d'une pente ensoleillée, d'une source, de terre exploitable, et souvent l'église paroissiale est bien trop éloignée, surtout lorsque les conditions climatiques très rudes mettent un frein au déplacement. On ne circule évidemment qu'à pied ou à dos d'animal à l'époque. Aussi, ces petits sanctuaires sont-ils très prisés des habitants? On n'y dit pas la messe, certainement, ou très rarement, mais on y vient prier, évoquer tel ou tel saint protecteur. Et ces lieux sont aussi, à la belle saison, passage obligé, de nombreuses processions organisées lors des fêtes. Et les fêtes catholiques sont très nombreuses. Si on les ajoutait, ça ferait peut-être plus de jours de congé qu'on en a aujourd'hui. Les bâtisseurs de ces chapelles rurales sont en revanche là totalement méconnus. On peut penser qu'il s'agit d'artisans locaux qui ont le plus souvent imité les artistes valsésiens. Mais parfois le résultat laisse pantois. Il en est ainsi pour la chapelle des Châteries, que voici que voilà dans un cadre magnifique. Mais, alors là, ça rend très très mauvais. Il faudrait que vous veniez voir chacun votre tour sur l'écran. Là, c'est 100 fois mieux. Parce que ça n'est que peinture, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors les Châteries sont sur notre itinéraire, vous avez ça dans les mains. Et nous allons retrouver à l'intérieur de ces tout petits édifices les éléments du décor baroque, par exemple le retable. Alors dans la chapelle des Châteries, en voici un. Bon là encore la couleur est très très mauvaise. Bon, il est de modeste dimension, à la taille de la chapelle qui n'est pas bien grande. On va voir dans quelques instants des choses beaucoup plus impressionnantes. Alors, plus modeste encore, une chapelle telle que celle-ci, qui est la chapelle de Cupelin. Alors, ça ne dit rien à personne, la chapelle de Cupelin, vous voyez, elle ne présente aucun intérêt à l'extérieur. Mais devant... Ah oui, on ne voit même rien du tout, là. C'est encore mieux. n'ose pas vous montrer mon écran aux gens du premier rang, mais vous verriez comme c'est beau. Je suis désolé. Alors cette chapelle qui ne présente aucun intérêt en a quand même un extraordinaire. C'est que devant cette chapelle, même maintenant dedans, parce qu'on l'a mis à l'abri, on avait peur qu'elle ne soit dérobée, puisqu'il s'agit d'une croix de mission. Alors quel est l'intérêt de ces croix de mission? Ces croix de mission, on les trouve à la croisée des chemins. Elles rappellent à tous les bons paroissiens, n'est-ce pas, le sacrifice du Christ. Et l'intérêt de cette croix de mission-ci, c'est que tous les symboles de ce sacrifice sont à peu près tout cela cette croix. On en rencontre très souvent où il y a un ou deux éléments, c'est tout. Mais là, vous avez la liste du coq qui est tout en haut, de la lance qui est en travers là, qui a percé le flanc du Christ, les tenailles pour la descente de croix, l'échelle pour essayer aussi, pour aider aussi à cette descente de croix, bien d'autres, l'éponge ici, voilà. Vous avez toutes les explications en bas à gauche. Je vous laisse regarder un petit instant. Alors effectivement, il était devant la petite chapelle de Cuplin, mais par sécurité, on l'a rangée à l'intérieur. On craignait qu'elle ne fût volée. On trouve de ces croix de mission en abondance, évidemment, dans cette région, mais on en trouve aussi dans beaucoup d'autres endroits de France, en particulier là où il y a eu une vive tension religieuse. C'est ainsi qu'aux confins des Cévennes, dans le Gard par exemple, ou dans la Lozère, on trouve là où les conflits entre... je cherche le nom, mais ça va me revenir dans une heure. Où les conflits entre protestants et catholiques ont été... Les Camisards, voilà. Où les conflits ont été particulièrement difficiles. Revenons un petit peu en arrière, et le fait que nous soyons partis en automobile plutôt qu'à pied nous le permet plus facilement. Revenons en arrière à Cordon. Alors Cordon, voilà, c'est le retable. Vous avez là tout ce qui fait la beauté de ces églises. J'y reviendrai dans un petit instant. Alors, tout semble avoir été conçu pour mettre en valeur ce qui c'est et ce qui n'est, après tout, pour nous qu'un élément décoratif. À l'époque, en fait, c'est un livre ouvert, un véritable catéchisme qui est chargé de délivrer un message, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne sait ni lire ni écrire le plus souvent. Il n'y a plus de notion abstraite, par exemple de la Trinité, et chaque dimanche, les fidèles se retrouvent devant la représentation du Père et du Fils associés, à la colombe de l'Esprit-Saint. De même, comment ne pas comprendre ce qu'est l'Assomption de la Vierge Marie lorsqu'on voit comme à la gorge, voilà, ça c'est Notre-Dame de la Gorge, lorsque, comme à la gorge, ces deux archanges qui s'apprêtent à l'emporter près de Dieu. Les deux archanges qui sont là, Dieu le Père, et curieusement, elle est placée au même niveau que Dieu le Père. Et que le Christ, avec l'Esprit Saint au-dessus. Alors, il serait hasardeux de limiter le rôle du retable à une simple action pédagogique. Il symbolise également l'espoir en un monde meilleur, celui auquel on parviendra après notre passage sur la terre, si court en un monde, à l'époque, où souffrances physiques, dénuement, sont le lot de beaucoup et la mort toujours présente. Alors, à 50 ans, on est un vieillard si on n'est pas déjà mort. Une autre fonction peut être attribuée au retable dans la sociabilité de la paroisse. Son achat et sa réalisation témoignent de la cohésion d'un groupe social et contribuent à affirmer l'identité d'une collectivité face aux autres villages. C'est presque une compétition, il n'y a pas de match de football entre les villages, Hein, c'est à coup de retable qu'on va se disputer la prédominance dans la région. Plus on fait beau, plus évidemment on est reconnu. Et par leur action conjuguée, les paroissiens ont fait de leur retable une vitrine de la bonne santé économique de leur village. Œuvre pourtant tout entière consacrée à la gloire de Dieu. Un décor théâtral pour les profanes, le retable est quand même le chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre, de sculpteurs ébénistes de l'époque qui ont exprimé là toute la symbolique de la prière, un trait d'union entre le terrestre et le divin, afin de susciter chez le croyant un élan de prière qui le rapprochera du Créateur. En premier lieu, le registre inférieur. Alors, on le devine ici, évidemment, tout en bas. Hein. Là, il a été tronqué parce qu'il y a encore un gradin en dessous, hein, qui ne présente pas grand intérêt. Il est le soubassement, c'est lui qui supporte, évidemment, tout l'édifice. Entre les deux, la partie supérieure et la partie inférieure, la partie centrale, qui est souvent la plus importante, avec une niche au milieu qui est dédiée là à la Vierge, à un saint, dans les églises Saint-Nicolas de Combloux, on verra tout à l'heure, ou Saint-Nicolas de Véros, c'est forcément Saint-Nicolas. Parfois, il y a deux niches sur les côtés, là, elles n'apparaissent pas, mais il y a quand même deux statues, des archanges, qui sont prêts à enlever la Vierge vers le ciel. Donc ça, c'est la partie médiane. Et puis, il y a la partie supérieure, qui est l'attique, où là, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est surprenant, la Vierge est placée à côté de Dieu le Père. Voilà. Je ne reviens pas sur cette partie-là. Alors, on ne le voit pas, mais on le verra tout à l'heure sur d'autres présentations, d'autres photos de retable. Le haut, qui peut être surmonté d'un fronton également interrompu comme au-dessus des portes des églises, voire même d'un dais, qui peut être remarquablement aménagé, comme dans certains édifices, vous le verrez tout à l'heure. Alors, cette composition à trois éléments, c'est pratiquement toujours le cas dans tous les retables de la région. Alors, je l'ai dit, Vierge, Saint-Nicolas Combloux, ça peut être Saint-Jean-Baptiste en d'autres lieux, enfin, on pourrait en énumérer plein encore, de ces niches centrales dans ces fameux retables. Le mouvement ascendant symbolisant la montée de la terre vers le ciel est accentué par la présence des colonnes torses caractéristiques. Voilà, ça c'est typique. Et ces colonnes, elles ont été certainement introduites, si on va jusqu'à Rome, dans le baldaquin de Saint-Pierre, par le Bernin, je pense. Et les guirlandes de pourpre, de pampre, pardon, tout simplement rappellent, sont un symbole eucharistique, c'est le Christ et la vie, le vin et son sang, par le mystère du sacrifice. Si dans bien des églises baroques, le registre supérieur du retable est très réduit, dans ces églises, c'est un élément très important, tant à Combloux qu'à Notre-Dame de la Gorge. Si on revient en arrière à Gordon, on voit là que le registre, et particulier le registre supérieur, est particulièrement important lui aussi. Là, c'est l'Assomption de la Vierge, puisque l'église s'appelle Notre-Dame de l'Assomption, Cordon. Alors, où en suis-je, pardon? Alors, foisonnement d'éléments végétaux, vision d'une nature qui participe à l'œuvre de Dieu, tous les retables sont d'ailleurs en bois. On est bien placé dans ces régions de montagne, on a la matière première à proximité. L'épicéa ou le sapin, pour la structure générale de l'ouvrage, tandis que les statues sont taillées dans un bois particulier, le bois d'Arol, qui s'appelle également pin sambro, qui est très abondant dans le dernier étage de la forêt alpine, et qui a un double avantage. Il se sculpte d'une part très facilement, et d'autre part, il n'est pas attaqué par les parasites. Ça, c'est remarquable. Et si nous nous écartions un tant soit peu de notre chemin, le sentier du baroque, dont vous avez le tracé entre vos mains, et nous pourrions découvrir d'autres retables, comme ici, là, je reviens. Voilà, alors là, nous sommes aux Zouches, qui est dédié à Saint Jean-Baptiste, avec un magnifique tabernacle ici, mais je reparlerai des tabernacles un petit peu plus tard, si vous voulez bien. Alors les Zouches, c'est sur le chemin de Chamonix, juste avant d'arriver à Chamonix. On peut aller au-delà de Chamonix, à Argentière, ce qui nous permet, c'est sur le chemin de la Suisse, du col des Montées, de voir là un dais remarquable. Et puis, quelque chose de particulièrement, le fronton, là-bas, la tique, est extrêmement complexe. Avec en plus ce dais, au-dessus de tout l'ensemble. Et puis on pourrait, là c'est dédié à Saint-Pierre. On pourrait également aller, par exemple, à Thônes. Alors Thônes est un petit peu plus loin, on s'est écarté franchement du chemin, là c'est dédié à Saint-Jean-Baptiste. Ce Thônes se trouve entre la Clusaz et Annecy. Ici, c'est un peintre, on connaît le nom de ce peintre, c'est un peintre qui s'appelle Bérengier. Et sachez-le encore que ce rétable est l'œuvre d'un artiste italien qui s'appelle Pierre Giacchetti de Macugnana. Donc on voit bien qu'on n'a pas allé à s'écarter bien loin de notre modeste sentier pour retrouver à travers toute cette région au Savoyard des petites merveilles. Mais on aurait très bien pu s'arrêter dans l'église de Chamonix, où il y a également un retable fort intéressant, à Entremont, près de la Clusaz, ou à Payonnet, près de Bonneville. Tous ces retables, cependant, ne doivent pas faire oublier le reste des décorations de ces églises, ces éléments caractéristiques du décor baroque. Il y a d'abord les retables latéraux. Car il y a non seulement un retable principal, mais il y a parfois un, deux, il y a même des églises où il y en a jusqu'à cinq retables latéraux. On parlera aussi de la poutre de gloire, du tabernacle, je vous en montrerai, qui sont autant de miroirs qui réfléchissent l'enseignement du retable, constituant un ensemble tout entier consacré à la louange de la gloire divine. Le tabernacle, j'y reviens, tient une place prépondérante dans la plupart des églises du Haut Foncillien. Alors, en voici un, remarquable. Ce sont de véritables petites constructions. On voit qu'ils ont l'aspect d'un édifice religieux. On pourrait imaginer qu'il y a trois portes à cet édifice, avec un dôme. Ce sont vraiment des objets précieux. Extraordinaire. Alors longtemps, le meuble contenant les saintes espèces est resté à l'écart, mais le concile de Trente, lui encore, a décidé de lui donner une place bien plus prestigieuse dans le but de faire passer auprès des fidèles un message à ses yeux fondamental. L'Eucharistie est au centre de la liturgie et le Christ est présent dans l'hostie consacrée, conservée dans le tabernacle. Aussi, les artistes de l'époque vont-ils apporter à cet élément un soin tout particulier dans leur réalisation. Donc là, non seulement il a l'aspect d'un temple, mais en plus une décoration très très riche, bien souvent avec de l'or. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. La rédemption constitue une autre idée majeure de ce temps. C'est l'art du statuaire qui devra expliciter le rachat du genre humain par la mort du Christ. Et la poutre de gloire, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Non, ça c'est autre chose. J'ai dû rater. Je vais vous dire où j'en suis, là, parce que je suis un petit peu perdu. Je vous prie de m'en excuser. Où étions-nous juste avant? Nous étions au tabernacle. l'instant. Je suis complètement perdu, mais voilà. Alors, oui, c'est le tabernacle là. Ensuite, eh bien, on a raté. Mais on va quand même s'intéresser à ce magnifique retable, parce que là aussi, vous avez un dais tout à fait particulier. Voilà. Je passe très vite, je reviens sur ce tabernacle. Voilà. On le voit. Ah, on le voit bien plus grand. Voilà, j'ai encore mes plus plates excuses là. C'est le même que tout à l'heure. C'est le même que tout à l'heure. On le voit beaucoup mieux. On le voit beaucoup mieux. Vous voyez, on voit même. Voilà. Bien. Alors, on l'a vu. Je continue. Et on parlait de la poutre de gloire. Alors, cet élément décoratif se trouve entre la nef et le chœur. Il est en quelque sorte une frontière entre le paroissien, qui est dans la nef, et le chœur, où le prêtre officie. Mais elle annonce déjà le sacrifice du Christ, la présence, et on voit la Vierge, là encore, qui est représentée à côté de Dieu le Père, qui est cachée, et ici, le Christ. Alors l'endroit choisi n'est pas anodin entre la nef et le chœur, parce que c'est un endroit à ne pas dépasser. On entre dans le sacré dès l'instant où franchit cette sorte de frontière. On voit là aussi les éléments décoratifs typiques avec les colonnes torses et les pampres qu'on devine très mal, mais qui existent aussi à cet endroit. Alors, dans les retables latéraux, je pense qu'on va en voir un maintenant. Je suis toujours un peu perdu, mais le sentier est balisé, donc je vais me retrouver. Alors, en voilà le retable latéral qui est dédié à notre évêque de Tours, Saint-Martin. Évidemment, la taille est plus modeste. Il participe évidemment à l'harmonie de tout l'édifice. Si l'on élève un petit peu le regard dans chacune de ces églises, on va peut-être ne rien trouver de particulier, mais dans certaines, eh bien, on va arriver sur de véritables merveilles. Alors nous voici sous la coupole de l'église, je cherche son nom, pardon, de Saint-Nicolas de Véros. Alors, Saint-Nicolas de Véros, sur notre chemin, c'est juste avant les Contamines de Montjoie, qui est dédié évidemment à Saint-Nicolas. Saint-Nicolas que l'on voit dans quatre parties représentées dans ses œuvres. Alors, ici à droite, il est désigné par les prélats de son diocèse comme évêque. Là-haut, il a la tête à l'envers, mais si on pouvait le voir dans le bon sens, il va jeter sa bourse à l'intérieur d'une maison pour doter trois jeunes filles très pauvres. Ici, il arrête, il fait un miracle en quelque sorte, il arrête la tempête. Là, enfin, il va faire libérer trois innocents injustement condamnés. Alors, cette coupole pourrait en attirer une autre. C'est celle de Cordon, si nous revenions à notre point de départ. C'est l'Assomption de la Vierge, puisque l'église s'appelle Notre-Dame de l'Assomption. Alors, la Vierge à l'enfant, ici. Là, je ne vois plus très bien. Peut-être certains pourraient-ils mieux m'expliquer. Voilà les quatre représentations qui qui se trouve sur cette magnifique coupole. Si je parle de cordon, c'est qu'on est pratiquement revenu à notre point de départ, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai été très rapide ou pas assez. Alors, plutôt que de vous laisser périr dans les flammes de l'enfer, ceci se trouve aux ouches, je préfère quand même vous quitter avec le sourire de ce bel ange qui se trouve, lui, à Argentière. Nous sommes de part et d'autre de Chamonix. Et puis, avant que de remonter dans la voiture, on pourrait s'arrêter à la petite chapelle du Médonnet, qui se situe sur la commune de Congloup, mais qui est à quelques hectomètres de Cordon. Chapelle qui ne présente pas grand intérêt de l'extérieur, elle a été entièrement rénovée, mais qui est dans un cadre grandiose, au pied du Mont Blanc. Et donc du goûter. Voilà, notre promenade est terminée, s'achève dans un cadre grandiose. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voici Cordon, dans son ensemble.
Et l'image a été éclaircie, tu peux peut-être passer cette question.
Oui, merci beaucoup.
Ça, tu as éclairci?
On essaie de voir.
Pour voir l'état de
vie. Bien volontiers. Ah, c'est un peu mieux, oui. C'est un peu mieux, oui. C'est un peu mieux.
Voilà,
ah oui, c'est beaucoup plus clair. Oui. Ah. Ah. On devine quand même les décorations du haut vent.
Hein?
On recommence tout? Sans moi. Je passe vite, hein?
Oui. Alors là, on voit pas.
On voit pas. Là, c'est la première. Là, on voit mieux. On devine sous le haut vent les décorations. Hein? Je vais vite. Hein? Ah, bah, Cuba. C'est la moins belle qu'on voit le mieux.
Non,
voilà. Vous n'avez pas de problème. Je non plus. Oui, ça allait après. Mais tu devais déjà avoir éclairci.
C'était les
premières. Et puis cette couleur rouge. Ah, ça flash, hein? Ben, il faut impressionner le paroissien.
Le rouge. Est-ce que le doré, c'était vraiment des peintures d'or?
Vraisemblablement pas. Hein? Les gens n'étaient pas suffisamment riches pour que ce soit là. Peut-être sur un tabernacle, hein? Mais l'ensemble des décorations dorées n'était certainement pas de l'or véritable. Hein? Les gens n'étaient pas suffisamment riches. Saint-Martin. Là, c'est Cordon. Moi, j'adore ce petit temps. Il est très beau. Hein. Il est très, très beau. Voilà.
Merci. Je n'ose pas parler parce que je vais certainement détraquer le son. Merci.
Oui, vraiment. Merci.
Je suis même sûre qu'il existe dans les petites chapelles du Val d'Aoste un certain nombre d'églises décorées de baroque comme ça.
Très certainement.
Oui, oui, oui. Parce que ça suivait la même ligne et la même... Est-ce que vous avez des questions à poser?
Alors, on peut effectivement suivre ce sentier, il existe, il est balisé.
Oui, oui.
Et il ne commence pas en fait à Cordon, il commence à Comble. Et il suffit de vous adresser au syndicat d'initiative de la commune pour avoir tout renseignement sur ce sentier.
C'est très très bien. Est-ce que vous avez des questions à poser?
Ça fait combien de kilomètres?
Le sentier, une vingtaine de kilomètres.
On aurait pu aller à
pied. Oui, oui, mais il se fait à pied. Il se fait à pied. On conseille de le faire en deux jours.
Il y a même, pour pouvoir bien exagérer.
Mais on peut très bien prendre la voiture, souvent. Ou la bicyclette, si on est un champion.
Merci.
Oui, il y a des coureurs ici, des cyclistes.
Plus de questions? C'est vrai, Raymond? Non, Raymond, bon, non. Tellement fasciné. Hein, c'est très beau. Dans la nature du...
Mais beaucoup d'Orléanais connaissent ces lieux. Vous poussez un rocher, vous poussez un rocher, là-bas il y a un Orléanais caché derrière. Ah oui, oui, il y en a partout.
Mais est-ce que ces églises, chapelles sont ouvertes, ou est-ce qu'ils vont aller chercher les
côtés? Ah ben ça c'est le problème. Les églises paroissiales, en général, sont ouvertes. Si vous allez dans Cordon, dans Combloux, au Contamine-Montjoie, aux Ouches à Argentière, évidemment, là, il n'y a pas de problème. Les chapelles dans les petits hameaux à l'écart, ça, c'est plus problématique. Mais comme elles sont sur le sentier balisé, vous avez quand même une chance supplémentaire que, si vous promenez de votre passage, parce que c'est quand même bien aménagé maintenant, vous avez une chance de pouvoir pénétrer dans tous ces lieux.
Mais est-ce qu'en dehors des rétables, il y a des statues individuelles?
Ah ben, il y a quelques statues, oui, oui. Oh, moi, je suis allé à l'économie ce soir, je n'ai pas tout montré. Oui, oui, bien sûr.
On nous a incité à y aller, évidemment.
Oui. Alors, on a vu des statues au vol, il y a des statues qui sont volées.
Ah ben, ça... C'est tout à fait vraisemblable. Hélas, hélas. Ce qui est impressionnant, en fait, c'est le lieu où cela se trouve. On n'imagine pas que dans des petits villages perdus, bon, ils ne le sont plus maintenant, parce qu'avec l'attrait des sports d'hiver, c'est particulièrement fréquenté, mais lorsque ça a été construit, c'était complètement perdu. Et on allait effectivement en ces lieux qu'à pied, ou à dos de mulet. Oui.
Mais elles doivent demander un entretien quand même.
Oui, elles sont bien entretenues. Ben, les églises paroissiales sont. L'église de Combloux en particulier est très fréquentée. Même M. Raffarin y va.
Et Cordon aussi est très
fréquenté. Cordon est très fréquenté.
Est-ce qu'il y a des systèmes d'alarme pour protéger ces églises?
Ah ça, j'ignore s'il y a des alarmes pour protéger la... Je ne sais pas. Il est vraisemblable que ce soit bien surveillé quand même. Hein? Henri. Le clocher à bulbe. Ben, le clocher à bulbe est caractéristique un peu de tout l'arc alpin, que vous alliez en Autriche, en particulier dans le Tyrol. En Bavière également. Et après, en Haute-Savoie et en Savoie, vous voyez ces clochers. C'est une forme caractéristique de la région. Alors, quelle est l'origine? Le pourquoi? Ça, j'ignore.
Oui. Vous avez montré, elle se situe
sous la voûte, oui. Oui, oui. Voilà, elle épouse la forme de la voûte.
Dans les emplois paroissiaux,
en limite du cœur.
Mais souvent, les statues sont séparées l'une de l'autre.
Il y en a,
c'est possible.
Il y en a qui sont horizontales, hein, les poutres de bois.
C'est très possible.
Il y en a qui sont horizontales, et d'autre part, il y a les jubés qui sont dans
ah, les jubés, oui.
Elles sont au même endroit que les poutres de bois.
Non, 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 ces églises sont beaucoup trop modestes pour qu'il y ait des jubés.
Ah, bien sûr. Hein? D'autre part, les bulbes, je crois, c'est en tout cas en Russie, il y a aussi des églises.
Ah bah, oui, encore plus impressionnant. Oui.
C'est simplement pour des problèmes de neige. Hein, pour que la neige puisse s'écouler
c'est possible.
Du sommet, donc c'était resserré par en dessous.
Parce que vous ne pensez pas que lorsque, si le clocher était bien pentu comme ça, la neige ne, oui, ne tomberait pas plus facilement. Ah, ne retombe. Ah oui, ah oui, ah oui.
Par conséquent, c'était sur le chapeau. Ah, oui. En Russie, en tout cas, c'est ça. Mais en Savoie, pourquoi pas.
Il neige aussi.
C'est pour ça qu'il dit ça.
Pourquoi pas. Je ne sais pas.
Pierre.
Nous ne sommes jamais allés dans le Balsésia et on le regrette, d'autant plus maintenant.
On ira.
Je me demande s'il y a, bon, tout l'art campagne italien, il y a des églises de ce type aussi. Oui, oui, oui. C'est pas étonnant. Dans le Balsésia, d'où sont venus tous ces maçons, je me demande s'il n'y a pas, à leur retour, s'ils n'ont pas contribué à.
Ah, c'est pas du tout impossible. Là, j'ignore totalement parce que je n'ai jamais mis les pieds dans le Val-Saisien.
Oui, c'est un val un peu perdu. Hein.
Ah oui,
en fait,
oui,
il est vaste.
Difficile d'accès.
C'est tant de Madésimo, qui est une grande station, oui, jusqu'à Borgo Manero, sur la Gorta.
Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que ces gens qui sont arrivés de la Val-Saisien ont franchi les Alpes à pied. Hein.
Oui.
Ah,
oui.
Bon. Aujourd'hui, c'est facile, on passe sous le tunnel. Hein. Fantastique. Hein?
Non, ça c'est inattendu.
Ah oui, oui.
Tant que c'est la concentration, en fait, c'est la.
Oui, il y avait les
Borromées, hein, de
Borromée. Oui, Borromée et François de Salles.
Il y avait les itinéraires marchands.
C'est vrai. C'est vrai, mais qui n'en était pas moins difficile.
Hein?
Franchir un col à l'époque en haute altitude, ça n'était pas une partie de plaisir.
Est-ce que justement, à cette période, c'était pas plus facile que maintenant? Parce qu'il y a eu la saison chaude, là.
C'est possible.
Mais
sous Louis XIV, si mes souvenirs sont exacts, il y a eu des hivers extrêmement rigoureux.
Après.
Hein? Donc.
Après, on passait sur pas. Le Mont Rose à plus de 4000 mètres à pied avec des ânes.
Mais ça prouve qu'ils étaient riches grâce, si j'ai bien compris, c'est le fromage qui les a, la fabrique des fromages,
voilà,
qui les a rendus riches.
En partie. Oui. Bah, c'était à peu près tout ce qu'ils pouvaient fabriquer. Oui, c'est les lieux inhospitaliers. Ils vivaient de leurs bêtes. Hein. Et puis aussi, bon nombre de ces richesses sont dues à l'argent apporté par ceux qui s'étaient exilés. Tant dans les cantons suisses que dans la Flandre, dans la Franche-Comté, comme j'ai dit tout à l'heure, à la cour de Vienne, un peu à l'image de certains provençaux qui étaient partis en Amérique du Sud et qui sont venus construire du côté de Manosque de véritables châteaux extraordinaires.
Et puis peut-être que là aussi, il y avait l'histoire des indulgences,
on monnayait tout cela. C'était assez facile, hein, tout compte fait.
Et il n'aurait jamais venu à l'idée, à l'église en endroit, de faire comme les Suisses et de s'engager dans les armées.
S'engager dans les armées, je crois qu'ils en ont tellement bavé, passez-moi l'expression, avec toutes les invasions qu'ils ont subies, parce qu'ils étaient sur le chemin de toutes les armées françaises, voire des armées de l'Empire austro-hongrois, hein, c'était pas encore l'Empire autrichien, qu'ils se tenaient peut-être à l'égard des sentiers battus pour éviter d'être enrôlés dans les armées qui leur ont fait tant de mal. Hein.
Eh bien, merci.
Merci. Et merci pour le très beau document.
Il aurait pu être mieux, mais j'ai été en panne d'ordinateur pendant plus d'un mois. Alors, ordinateur, plus d'internet, plus de téléphone fixe. Donc, j'ai pas pu taper correctement ce qui est écrit.
Ah non, bravo, je suppose que.
Mais bien sûr.
Je suppose que ton épouse t'a aidé pour ça.
Pas du tout.
Cette fois, non, parce que j'adore ce petit document.
Mais il n'y a rien du tout, mon épouse.
Elle se met de.
Ah non, non, mais n'importe quoi, je l'ai interdit. Faut pas que je parle encore. C'est Saint-Bernard et Saint-Pierre dessus.
Saint-Bernard, voilà, alors je vous demandais Saint-Bernard. Mais attends, un des Saint-Bernard, alors non mais c'est très bien parce que ça montre bien qu'on peut parler de tout cet art.